Partez à la découverte d'un livre, un film, une expo ou un spectacle avec votre chronique Joie de Culture, chaque semaine avec Brigitte.
Aujourd'hui, nous parlons de Veiller sur elle. C'est le premier roman de Jean-Baptiste Andréa, écrit en 2023 et qui a obtenu divers prix. Jean-Baptiste Andréa est un conteur exceptionnel. Sur près de 600 pages, avec à peine quelques longueurs dans le dernier quart peut-être, avec beaucoup de délicatesse, Veiller sur elle nous invite à la rencontre de deux destins qui vont s'entrelacer dans l'Italie du XXe siècle avec fracas et fureur. Le roman s'ouvre en 1985. Mimmo, au seuil de sa vie, reclus dans une abbaye piémontaise où il vit depuis une quarantaine d'années sans avoir prononcé ses vœux, se remémore le film de sa vie. Il sent son dernier souffle arriver et décide de la raconter justement, sa vie. En résumé, c'est sa relation singulière avec Viola et l'histoire de son chef-d'œuvre, une mystérieuse statue troublant quiconque la voyait, au point que le Vatican a décidé de la soustraire à la vue de tous. L'histoire retrace donc les destins de Viola et Mimmo, comme ils s'aiment, se confient, se disputent, se séparent, se retrouvent, tout cela par une connexion d'âme comme il en existe peu. Nous sommes deux aimants, plus nous nous rapprochons, plus nous nous repoussons. Jean-Baptiste Andréa donne la parole au sculpteur de génie, Michelangelo Vitaliani, qui revisite l'Italie de ses souvenirs et le chaos du XXe siècle. Vitaliani, c'est Mimmo, né pauvre et nain. Lorsque le père sculpteur talentueux meurt, sa mère le confie en apprentissage à un oncle sculpteur de pierre, sans aucune envergure, avare, méchant et plus intéressé par l'alcool que la sculpture. Mais Mimmo a du génie entre les mains et deviendra un jour célèbre et riche. Sur la route de Mimmo, il y a Viola, jeune fille impétueuse, fantasque et intelligente, benjamine de la richissime famille Orsini. J'ai beaucoup aimé sa fantaisie. Toutes les fées ou presque se sont penchées sur Viola Orsini. Héritière donc d'une famille prestigieuse la plus puissante de Ligurie, elle a passé son enfance à l'ombre d'un palais génois. Mais elle a trop d'ambition pour se résigner à la place qu'on lui assigne. Ces deux-là n'auraient jamais dû se rencontrer. Ils font connaissance dans un cimetière, Viola étant une nécro-romantique convaincue. Au premier regard, ils se reconnaissent et se jurent de ne jamais se quitter. Viola et Mimmo ne peuvent ni vivre ensemble, ni rester longtemps loin de l'autre. Liés par une attraction indéfectible, ils traversent des années de fureur quand l'Italie bascule dans le fascisme. Ils traversent l'histoire, les guerres, les heures sombres de l'Italie, et plus ils se rapprochent, plus ils se repoussent. Nous traversons le siècle avec eux, ils continuent de se guetter, de se chercher, d'apprivoiser à chaque retrouvaille. Viola finit par se marier, par convention de la haute société, et suite à une chute vertigineuse, lorsque déployant ses ailes de papier, elle fait une chute terrible qui l'immobilise durant des années, elle ne pourra pas avoir d'enfant. Mimmo, lui, continue sa vie en tant que sculpteur et se fait une renommée au fil des pages et des années, grâce surtout à l'appui de la famille Orsini. La relation avec Viola n'est pas simple, mais perdure, y compris pendant la montée du fascisme qui fracasse les destins. Grâce à Viola, d'ailleurs, Mimmo prendra enfin conscience du danger du fascisme. Mimmo, Viola, Viola, Mimmo, deux personnages qui dégagent une empathie très forte. Nous ne pouvons pas être indifférents et nous avons presque la sensation de faire partie de leur décor. Je vous laisse découvrir les raisons qui poussent Mimmo, alors au sommet de son art, à se retirer dans ce monastère. Tout au long du livre, nous passons du rire aux larmes, d'autant que les personnages nous parlent tous directement à l'oreille, et tout particulièrement l'anticonformiste Viola. Les personnages résonnent en nous, d'autant plus fort que l'intensité dramaturgique du récit est renforcée par des décors italiens admirablement décrits, les collines des domaines des Orsini, les bas-fonds de Florence, et un arrière-plan historique jamais écrasant, mais toujours présent. Les dernières pages révéleront évidemment les secrets de la statue. Mais il faut d'abord lire les 600 pages. C'est un roman flamboyant, majestueux, un roman plein de fougue et d'éclat, habité par la grâce et la beauté, à offrir ou à s'offrir pour les fêtes. Bon courage pour la lecture, à la semaine prochaine.